J'aime bien quand Sigrid revient tout l'été sur France Inter. J'aime bien apprendre des trucs sur les séries que je connais pas. J'aime bien quand Dedo vient 2-3 fois sur 4. J'aime bien.
Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, quand j'ai entendu que vous alliez faire les Goonies, ma réaction, ça a été « Les Goonies !» Donc j'ai passé un super bon moment. Et en plus, ça m'a rappelé que lorsque j'étais petite, justement, je jouais à un jeu très pixelisé sur MSX des Goonies avec la chanson de Cyndi Lauper en fond, avec la petite musique digne des années 80. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà, ça m'a rappelé plein de bons moments de mon enfance et aussi de mon âge adulte, puisque je le regarde assez régulièrement car je lis en DVD.
Je ne dirai qu'une seule chose. Silence, Chancon !
Bonjour, Blockbuster. Bah alors, qu'est-ce que vous nous faites ? On se couche avec les Goonies et on se réveille sans Richard Donner ?
Salut Frédéric, c'est Mireille du KGB. L'arme fatale et barouf d'honneur pour Richard. Bon, ma Fred, s'il te plaît, choisis bien tes thèmes. Au cas où la faucheuse aurait choisi Blockbuster pour déterminer ses prochaines cibles. À bientôt, bonne saison !
To be or not to be, not to be.
Je n'aime pas les hommages. Cette sale habitude de trouver des qualités aux gens une fois qu'ils sont plus là, ça me saoule. Ça a autant d'intérêt que d'avoir de la répartie dans une conversation, mais que quand t'es rentré chez toi. Celles et ceux qui s'empressent de mettre une photo d'eux à côté du défunt sur les réseaux sociaux prouvent que les asticots sont des fois moins rapides que nous pour bouffer sur le dos des morts. Cette année, en choisissant de parler des Goonies hier et de l'arme fatale la semaine prochaine, je n'avais pas prévu de faire une émission posthume consacrée à Richard Donner. C'est une affreuse coïncidence, je n'ai ni le cahier de Light Yagami dans Death Note, ni le funeste pouvoir de la cassette de Ring. J'ai voulu parler de Richard Donner car même parmi les grands noms de la réalisation, on ne parle pas à sa juste valeur du legs de cet homme au monde du cinéma populaire. Superman, Christopher Reeves, celui qui a fait croire au monde entier qu'un homme pouvait voler. La Malédiction, ce film qui nous a fait croire que le diable pouvait s'appeler Damien. Les Goonies, Lady Hawk, l'arme fatale. Un dicton dit que tant que quelqu'un prononce encore votre nom, vous n'êtes pas vraiment mort. Vu les films que Richard Donner a laissés derrière lui, inutile de le pleurer, j'ai envie de dire, cet homme est immortel.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
James Hetfield, guitare rythmique et voix.
Lars Ulrich, batterie et percussion.
Dave Mustaine, guitare solo.
Cliff Burton, guitare basse.
Ce matin, Dorothée Barba me disait au détour d'un couloir qu'on aimait les risques à Blockbuster en faisant une émission sur Metallica. Car les fans vont forcément nous tomber dessus parce qu'on n'a pas parlé de tel ou tel album, de tel ou tel morceau, et les auditeurs traditionnels d'Inter vont trouver que ce groupe n'a pas sa place sur l'antenne. Bref, on va énerver des gens. J'ai envie de dire un mardi comme tous les autres chez Blockbuster en fait. Metallica, ce groupe californien apparu dans les années 80, a derrière lui plus de 120 millions d'albums vendus. Des concerts à guichets fermés, dans le monde entier, des albums, disques d'or et de platine. Pourtant, ces représentants de la musique métal sont moins médiatisés que leur succès ne pourrait le laisser présager. À défaut de les connaître par cœur, je vous propose avec cette émission d'avoir une belle porte d'entrée pour les découvrir, et même un peu plus. Et pour cela, j'ai à mes côtés Guillaume Fleury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Rock Hard Magazine, dont le dernier numéro sorti vendredi dernier est consacré à Metallica. Et dans ce numéro sont cachés 5 tickets d'or magiques pour le Hellfest.
C'est ça, pour les 7 jours du Hellfest.
Bon, vous avez réédigé notamment le hors-série qui sortira fin juillet, entièrement consacré à la réédition du Black Album de Metallica.
C'est ça, c'est l'histoire du Black Album.
Avec nous également Millie Redd, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueuse pour L'Antre, l'émission du métal chaque mercredi de 22h à minuit sur Radio Transparence, c'est disponible en podcast. Yes. Et vous avez également un studio d'enregistrement, le Fat Lab Studio à Entraigues sur la Sorgue. Et vous êtes manager de groupes de métal dans le Vaucluse, notamment les groupes Mundilfari et le Clone Shop.
Exactement.
Et alors là, c'est presque un cliché de l'avoir sur cette émission, mais en même temps, moi j'ai envie de dire, on n'est pas à ça près.
Non. Hein,
un cliché, bah, Dedo, bonjour Dedo.
Bonjour, bonjour encore.
Mais oui, il est de retour, Dedo qui joue son projet Princesse Leia au Festival des Cibules le 16 juillet à Neuf-Église, dans le Bas-Rhin, et le 17 et 18 septembre à la Maroquinerie à Paris. Et on n'a pas parlé hier de podcast que vous enregistrez avec Urbain, Fucked Up Movies, où vous faites des analyses de films qu'il vaut mieux regarder seul, enfin... sans être à côté de sa famille. Quoi.
Ouais, ça dépend.
dépend. C'est un cinéma un peu déviant, effectivement, mais on aborde aussi bien Fellini que Takeshi Miike. Mais voilà, c'est une porte d'entrée sur un cinéma un peu bizarre et je pense que ça plaira.
Ensemble, on va revenir sur la création de Metallica, sur leur personnalité, leurs albums, leurs tubes, leur refus initial de passer par les traditionnels canaux de marketing. On tentera de définir ce qu'est le métal et en quoi Metallica est un groupe qui a marqué l'histoire de ce genre. À l'ère des plateformes numériques et de la musique en streaming, on évoquera leur évolution. Metallica est-il toujours aussi indépendant et subversif? Allez, Blockbuster spécial Metallica, c'est parti.
Metallica sur la grande place d'Arras et tout à coup vos tympans se font tout petits. Guitare rugueuse, rythmique de bulldozer et 25 000 personnes vibrantes à l'unisson.
D'où viennent les Metallica?
Les Metallica, ils viennent de San Francisco. Alors au départ, ils viennent de Los Angeles, mais ils se rebasent à San Francisco. Ils commencent en 1981. Pour l'origine géographique, c'est ça. Oui. Tout part de Lars Ulrich, le batteur, qui passe une petite annonce dans le journal local The Recycler pour trouver un guitariste rythmique. Il le trouve en la personne de James Hetfield. Et ils seront ensuite rejoints par un certain Dave Mustaine.
Et donc en fait, ça, initialement, c'est comme ça que ça démarre. C'est-à-dire une annonce dans un journal et pouf, tout d'un coup, il y a un des plus grands groupes de métal qui se crée comme ça, genre sur une annonce.
Alors ça se fait pas tout de suite, ça se fait pas aussi vite. Hein. Il faut quand même tâtonner, il faut quand même faire passer un peu de personnel avant de trouver les membres définitifs. Mais en ce qui concerne le noyau de base, Ulrich Hetfield, c'est vraiment comme ça que ça commence, en sachant que ça se passe pas forcément super bien au départ. Hetfield n'est pas forcément convaincu par le niveau d'Ulrich au tout départ, mais ce qui l'allèche beaucoup, c'est que celui-ci a la possibilité de faire passer une démo du futur groupe.
Ah, donc il y a une dimension d'opportunisme.
Il n'y a pas que ça, parce qu'ils se rendent compte quand même assez rapidement qu'ils ont beaucoup d'atomes crochus. Ulrich fait découvrir beaucoup de choses, beaucoup de groupes européens notamment à Hetfield. Et ce qui va faire, mais c'est vrai que ce qui fait pencher la balance au départ, c'est qu'il se dit il y a quand même moyen avec ce gars-là de faire passer nos morceaux sur une cassette, une compilation Metal Massacre, qui est devenue culte depuis, hein, qui était créée par Brian Slagel, si je dis pas de bêtises, hein, qui fondera Metal Blade plus tard. Et en fait, c'est à partir de là que les choses deviennent sérieuses. Donc c'est vrai que ça va assez vite, mais le tout premier contact, si on demande à James Hetfield, en général, il aime bien rigoler en disant tout premier contact, la cymbale de Lars qui tombe dès qu'il donne le premier coup, j'ai l'impression qu'il est pas génial.
Ouais, qu'il est pas au point.
Voilà. Et après, il se rend compte que Lars, c'est quelqu'un qui est passionné, qui connaît vraiment très bien la scène métal, surtout européenne, que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait comment le faire. Il voit très bien qu'il est quand même en bonne compagnie s'il a quelques ambitions.
Milly Red, vous avez adopté les Metallica dès le départ ou c'est avec un certain album que vous êtes entré dans cet univers?
Bon, dès le départ, je sais pas trop, parce qu'en fait, c'est un peu né au moment de ma naissance à moi.
Je ne ferai pas l'affront de vous demander votre âge, vous inquiétez pas.
Non, mais moi, j'ai été bercée par ça aussi avec papa, le dimanche, la chaîne Ify, les trucs, c'était génial.
Il vous berce fort quand même. Hein.
Ouais, mais ça m'a fait du bien finalement.
Ça t'a mieux réussi qu'à Sinoc en tout cas, celle qui a écouté l'émission hier.
Je te remercie d'être... C'est gentil. Oui, enfin moi après ouais, c'est le Black Album et après il y a eu aussi, enfin il y a Nothing Else Matter, je sais pas, c'est mon côté nana qui fait parler, mais bon, enfin la balade, nanana, ça fait un peu kitsch, mais...
non, mais de toute façon, Blockbuster, c'est une émission qu'on fait parce que ça a été un gros succès populaire, et Nothing Else Matter, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise,
c'est la porte d'entrée au grand public.
C'est la porte d'entrée du grand public vers Metallica.
Ah oui, complètement, je te laisse continuer peut-être.
Mais autant tout ce qui est très bourrin, Ça passe tout seul aussi chez
ça
moi.
Ça passe tout seul aussi. Dedo, la découverte de Metallica.
Alors moi, c'est par l'album Ride the Lightning, leur deuxième album pour le coup. Et bah, je connaissais le nom comme tout le monde. Il y a une vague de noms de groupes de métal qui se terminaient en A, et Metallica en étant certainement le plus connu, avec Sepultura pour Mon Cœur qui parle, et Pantera bien entendu, mais c'est un autre débat. Et donc oui, ça a été la porte d'entrée. On parlait justement de ballade, quelque part Metallica est clairement une des icônes de ce qu'on appelle le Big Four, donc les gros groupes trash emblématiques de cette période.
Alors, je suis ravi de t'entendre qualifier Metallica de groupe trash, car François Audouin, réalisateur de Par Jupiter et autoproclamé défenseur de métal, me dit « Mais c'est pas du trash, pourquoi tu dis ça ?» Je suis désolé, ils ont commencé dans le trash. Nous sommes donc d'accord.
Bien sûr, complètement. Bah, ils ont été associés même par rapport à Slayer à l'époque et tout ça. Au départ, ils étaient totalement d'accord avec ça. Ils ont voulu très rapidement s'écarter et s'émanciper de l'étiquette trash. D'ailleurs, on parlait de ballade. Fade to Black a été le premier affront au trash metal pour les gros fans, parce que c'était une ballade et que c'était complètement interdit à l'époque pour les fans en tout cas.
Alors, par contre, au tout début, quand Metallica sort Kill 'Em All, on parle pas encore de thrash, ça existe pas encore vraiment. Mm-hmm. On parle de speed ou d'overspeed.
Alors, expliquez, parce que vraiment, imaginez, j'ai 2 ans et demi, vraiment, et je sais, d'ailleurs, c'est le cas. J'ai 2 ans et demi, c'est quoi la différence entre le speed, le thrash?
Alors, écoute, je vais te montrer avec des cubes. Non, en fait, c'est, quand Metallica arrive, ce qu'il faut bien remettre dans le contexte, c'est qu'il n'y a jamais encore. Le truc le plus violent qui existe à ce moment-là, c'est Motorhead. Donc c'est vraiment c'est pas du métal Motorhead, c'est du rock hérité du punk très violent, mais c'est pas du métal. Il y a Venom aussi qui est un peu dans la veine agressif un peu foutraque et avec le petit côté sulfureux sataniste même si ça peut prêter à rire 30 ans plus tard. Et en fait quand Metallica arrive, ils jouent plus vite que tous ces gens-là. C'est-à-dire que quand ils débarquent avec Kill 'Em All, c'est même pour les métalleux de l'époque, c'est du bruit déjà. Pour beaucoup de métalleux, c'est inaudible, c'est n'importe quoi.
Oui, c'est des adolescents en plus quand ils débarquent.
Ah, ils sont très très jeunes, oui, bien sûr. Oui, oui. Et en fait, si on veut comparer, en fait, c'est quasiment le même effet que quand la seconde vague du black metal nordique arrive dans les années 90. C'est la réaction, c'est du bruit, c'est inaudible, c'est n'importe quoi. Moi, les gens sont encore globalement plus sur des choses plus mélodiques, plus. Et Metallica, ça joue vite, ça joue très vite. Et ce qui impressionne, c'est que ça joue vite, mais ça joue bien. Il y a de la mélodie, il y a quand même une adresse technique qu'il n'y a pas forcément chez tous les groupes de l'époque. Après, ça devient au fur et à mesure du temps, quand on essaye de nommer cette nouvelle scène, on passe de speed à overspeed, puis après on dit c'est du thrash, quoi.
Oui, parce qu'il y a une nomenclature qui est un peu particulière, les auditeurs l'auront compris, mais ce que vous dites, et à mon avis il est important d'insister là-dessus, c'est le sens de la mélodie, c'est-à-dire que quand ils laissent parler les instruments, il y a des morceaux magnifiques.
Ah oui, tout à fait. Après, c'est-à-dire... Dès leur deuxième album, ils commencent déjà à s'émanciper de ce qu'ils faisaient sur le premier. Metallica, c'est un groupe qui change très souvent, finalement. Il n'y a que le deuxième et le troisième qui ont des points communs sur le début de la carrière, parce qu'après, il y a Load et Reload, c'est encore autre chose.
C'est bien que tu dises juste c'est encore autre chose. On pourrait aller plus loin dans le côté négatif, mais je vais...
Alors moi, j'aime beaucoup l'album Load, mais Reload, par contre, ça passe très difficilement.
Oui, pour tout le monde, il y a un problème de batterie sur certains albums de Metallica qui sont plus marqués qu'ailleurs. Ouais. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose où la grosse caisse a eu un gros problème.
Justement, on va les écouter, parce qu'on est quand même un peu là pour ça.
Ces passages-là, c'est dommage.
Pas celui-ci. et personnellement, je pourrais déménager dans l'intro du morceau qu'on va écouter tellement je l'aime. Voici Enter Sandman de Metallica. Alors évidemment, vous allez dire, il va oser parler sur l'intro. Eh ben oui, il va oser. Parce que quand même, l'émission, le temps, c'est de l'argent. Hein. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax et Cyril Marchand, avec l'aide de notre stagiaire réalisation, Véronique Ameyer. Et à la technique, aujourd'hui, on est ravis de le retrouver, Fabrice Desmaz. We'll be right back.
C'était Enter Sandman de Metallica dans Blockbuster sur France Inter.
Tu peux m'expliquer ce que tu fais là?
Mais rien du tout, c'est toi, t'es assis là avec ton attitude d'abruti.
Tu fais vraiment avancer les choses, toi, t'es très fort.
C'est comme un mariage.
Worse.
Mais en pire.
It's like a marriage, but you...
Comme un mariage, mais là tu es marié avec trois autres personnes, tu vois.
And it takes
et ça demande des efforts.
Billy Red, d'où vient ce chanteur à la voix si particulière qui se nomme James Hetfield?
D'où vient-il? Alors, James Hetfield, il est né le 3 août 1983. 1963.
C'est peut-être lui qui est né dans quel endroit.
C'est pas moi non plus. Donc, cofondateur et chanteur du groupe. Guitariste rythmique également. Il est fils d'un chauffeur poids lourd et d'une chanteuse. Est-ce que vous saviez ça?
Mais oui, je l'ai lu.
Ah, c'est bien. Hein.
Mais c'est pour ça que je vous invite, c'est pour le dire à ma place. Comme ça, la parole circule.
Bon, je pense qu'il n'a pas dû avoir une enfance assez fun, puisque la famille était très croyante et membre de la science chrétienne. C'est un peu ambiance chez nous, témoin de Jéhovah.
D'accord.
Donc tout ce qui est... c'est une église qui rejette tout ce qui est guérison et les idées de la médecine en général. Enfin voilà, moi je pense que c'est pas ultra fun, mais chacun ses combats. Grâce à son frère aîné, du coup, qui était lui batteur, il est devenu guitariste, mais à savoir qu'il a commencé par le piano, parce que sa mère elle a un peu tanné pour ça. Donc voilà, et à savoir que aussi, il a voulu être guitariste parce qu'il était ultra fan d'Aerosmith.
D'accord. Voilà. Et dès le départ, en fait, on a quand même affaire à quelqu'un qui a un côté spleen prononcé, assez dark. Guillaume Fleury, vous confirmez, c'est pas un guéluron, James Hetfield.
Non, en fait, ce qu'on peut préciser, c'est que sa mère s'est laissée mourir d'un cancer.
Alors ça peut aider, ça peut être un élément de réponse, effectivement. Voilà.
Le père a quitté la famille. Donc le père a quitté la famille en premier lieu. Ça, il a disparu. Il est parti. Il a vite compris qu'il reviendrait pas. La mère s'est laissée mourir d'un cancer. Donc il s'est retrouvé un peu. Ouais, il s'est un peu retrouvé tout seul et il a fallu qu'il apprenne les choses peut-être un peu plus à la dure que d'autres. Après, il n'est pas le seul dans le groupe à avoir morflé parce que Kirk Hammett était un enfant battu. Son père était alcoolique. Ils sont quand même plus tard à avoir ramassé. Il n'y a que Lars Ulrich vraiment qui lui vient d'un milieu beaucoup plus cool.
Oui, lui, son père était tennisman. Je
son
crois.
Père était tennisman professionnel et il avait déjà un train de vie aisé avant Metallica.
Sachant que Dave Mustaine, qui était le guitariste de la première formation,
était très problématique aussi.
Ah oui, mais toxique à tous les niveaux. C'est-à-dire, je pense que si voilà, vous prélevez de son sang et vous en mettez, vous mourrez vraiment sur le moment, très très alcoolique. Et puis
ça l'a pas empêché de faire carrière.
Ah non, bien sûr, il crée derrière Megadeth, qui est devenu justement, on parlait du Big Four tout à l'heure, un des groupes emblématiques du thrash metal 40 ans plus tard. Mais déjà, très rapidement, cette guerre entre l'ego de Dave Mustaine et celui de James Hetfield va faire que les deux groupes vont littéralement se tirer la bourre pendant des dizaines d'années. Et Dave Mustaine s'en remet jamais parce que, bah voilà, il se rend compte que Metallica, c'est quand même les champions du monde du box-office. Et il y a toujours cette frustration qui est présente chez Mustaine, même si Megadeth reste très très puissant et emblématique auprès des fans.
Après, il faut aussi dire ce qui est, c'est que Dave Mustaine a tout fait lors de leur déplacement dans leur première tournée pour se faire virer, c'est-à-dire que...
Bah oui.
Lui dirait que non, mais a priori, oui, il a quand même fait des choses. Le problème, c'est qu'il n'était pas le seul à être un peu difficile à gérer. Il ne faut pas oublier que James Hetfield, c'est quand même quelqu'un qui pouvait, quand Lars Ulrich, par exemple, s'est arrivé une fois sur scène, au moins une fois, Lars Ulrich lance un morceau, un rappel, il lance pas le morceau qui avait été décidé par le groupe, parce qu'il en fait qu'à sa tête. James Hetfield, sur scène, lui casse la gueule. Il lui met un direct dans le bide, il le jette par terre. C'est quand même violent entre eux. Ils se foutent quand même souvent les uns sur les autres.
Ça chahute un petit peu.
Mais oui, mais c'est des relations de management un petit peu particuliers. Exactement. Peut-être que ça reviendra à la mode, on ne sait pas. Hein.
Mais ils ont souvent dit, les deux, et de Phil Ulrich, que le secret de la force de Metallica, c'est à quel point eux deux sont antinomiques et à quel point ils se nourrissent de leur conflit, en fait.
C'est vrai, et puis les égos font que justement on a envie de se dépasser. On a cet exemple-là qui est très présent chez Aerosmith avec Steven Tyler et Joe Perry, on les appelle les Toxic Twins, mais c'est pour le meilleur et pour le pire, et la plupart du temps, s'en créent des choses artistiques qui sont beaucoup plus puissantes que si on se laisse aller et qu'on se repose sur ses lauriers. Donc ce genre de confrontation malheureuse laisse très souvent la voie à des créations qui vont marquer durablement l'air du temps.
Et James Hetfield semble avoir un némésis sous la forme du skateboard.
C'est un grand enfant.
J'ai noté un nombre incalculable de chutes au
jet ski.
Ou alors il doit avoir un problème d'oreille aussi. Interne.
Ouais, qu'est-ce qui se passe entre James et les skateboards? C'est un truc de fou, quoi.
Bah, il emmenait son skate avec lui en tournée parce que pour tuer le temps entre les concerts. Et puis bah, après cette flinguée le poignet deux fois, 86-87, en moins d'un an. Ses managers lui ont dit, enfin ils lui ont vraiment
essaye les échecs,
tu ne touches plus un skateboard.
Des groupies oui, des skateboards
voilà.
Non.
C'est un très bon slogan.
Mais oui,
vraiment.
On n'imagine pas la vie des métalleux comme ça. On imagine des débauches, etc. On n'imagine pas qu'un skateboard peut carrément mettre une tournée par terre. Mais aussi des accidents pyrotechniques.
Ah ouais. Bah ça oui, alors le fameux accident en 92 avec la tournée avec Guns N' Roses où il a quand même reçu une projection de feu de 3200 degrés, donc c'est de quoi fondre le métal.
Qui est une belle analogie,
ouais. Voilà. Et il a vraiment, sa peau a fondu, on voyait ses nerfs, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Il a quand même réussi à reprendre la tournée moins de 2 mois plus tard, 2 mois à peu près.
Et alors là, on parle de James Hetfield, mais le groupe, dans son ensemble, a vécu mais des choses, des tragédies incroyables. Ils ont perdu un membre dans un accident de bus. Est-ce que vous pouvez en parler?
Ben, l'accident de bus, oui, avec Cliff Burton en 1986. Il faut savoir qu'avec Cliff Burton, ils perdent. Alors, c'est pas forcément le leader. Dans le sens celui qui gère le groupe, mais c'est un leader artistique.
Mais c'est la structure musicale du,
c'est ça,
du groupe.
C'est déjà, ils le voient tous comme un grand frère, Cliff Burton. D'ailleurs, James Hetfield va mettre des décennies à s'en remettre, clairement. On le voit même pendant l'ère Black Album Load, on sent qu'il est toujours affecté par cette perte. Donc ils perdent quelqu'un qui était vraiment primordial pour le son de Metallica. Et d'ailleurs, il n'y a plus jamais rien qui a sonné comme Ride the Lightning et Master of Puppets après.
Et il en parle dans le documentaire, il dit que dans ses rêves, Cliff Burton vient le voir et qu'il espère qu'en se réveillant, bah, il va découvrir que c'est comme pour Elvis qu'il est parti.
Et puis il faut savoir en plus que c'est encore plus dur pour Kirk Hammett, parce que Kirk Hammett avait joué sa couchette dans le bus.
Oui, ça, c'était même pas sa place.
C'est Kirk Hammett qui aurait dû être à sa place. Donc pour lui, derrière, c'est encore pire.
Le sentiment de culpabilité est exacerbé forcément. Puis il faut savoir que Cliff Burton était presque vu comme un gourou. Hein. Et à la base, ils étaient effectivement basés sur Los Angeles, mais sont partis à San Francisco.
Oui, c'est lui qui a demandé
à la condition sine qua non de Burton, parce que sinon
c'était trop des poseurs.
Exactement.
Bah, il se passait rien en fait à Los Angeles pour le métal. Et puis la deuxième condition qu'il a imposée, il fallait quand même arriver à se faire accepter ça par des mecs comme Hetfield et Ulrich, c'est d'avoir un solo de basse rien qu'à lui sur l'album. Et bien sûr, il l'a obtenu.
Et c'est ce qui se passe effectivement. Et c'est vrai que plus rien n'a sonné pareil. Mais même quand ils ont changé par la force des choses de bassiste avec Jason Newsted, on se rend compte sur Injustice for All que la basse est quasiment inexistante en termes de mixage et de son. Parce que je pense qu'ils n'étaient même pas remis encore psychologiquement. Et le fait d'avoir un nouveau batteur, c'est une chose. Mais de le faire sonner, c'est différent à cette époque-là en tout cas.
Alors, ça par contre, il y a un peu de ça. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, si vous me permettez, sur ce sujet. C'est qu'il y a un coffret Ultimate. Injustice for All qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, vous savez, les énormes coffrets en tissu. Et dedans, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a des CD bonus dans lesquels on peut entendre les mixages, les titres pas mixés ou les rough mixes. Et en fait, James Hetfield a tout le temps défendu l'idée qu'en fait, Jason était complètement livré à lui-même, le bassiste, par les autres. Il n'enregistrait jamais avec les autres. Il était tout le temps tout seul. Donc on lui disait, tiens, voilà les morceaux, tu joues et puis tu te démerdes. Et donc il a fait ces trucs et il suivait les guitares. Et en fait, ce que dit James, c'est que les lignes de basse, elles suivent tout le temps, presque tout le temps bêtement les guitares. Et que quand ils se sont retrouvés à mixer, il y a eu des problèmes de fréquence qui se heurtent et compagnie. Et que ça n'avait pas d'intérêt. Et je me suis dit, bon, peut-être, j'aimerais bien entendre. Et là, quand tu l'entends, tu vas voir si ça doit être trouvable partout maintenant. Tu peux entendre qu'effectivement, les lignes de basse suivent tout le temps la guitare. Ouais, et si tu les montes, bah, effectivement, c'est pas très heureux, quoi.
Ah,
Dans ces cas-là, ça aurait dû être une conversation artistique qu'ils auraient dû avoir.
Exactement.
Que, de toute manière,
surtout avant de sortir les albums, c'est bien quand même de parler de la manière de composer de la musique avant de le sortir.
Sachant que Jason Newsted a quand même été pas mal bizuté par le groupe parce que c'était pas si simple malgré tout de rentrer là-dedans.
Ah oui, il s'est retrouvé avec sa chambre mise à sac, la télé jetée par la fenêtre, toutes ses affaires. Il se retrouve en slip dans sa chambre et puis il se barre et puis ils lui disent bienvenue dans le groupe, enculé.
Ah ben c'est bien.
C'est toujours assez sympa. Ah ouais,
c'est bonne ambiance. Les repas de fin d'année, ça doit être formidable. Je pourrais vous annoncer le prochain titre en version originale, mais à chaque fois que je parle anglais, il y a un prof de langue étrangère qui se défenestre quelque part sur cette planète. Donc tout de suite, on écoute Pour qui sonne le glas de Metallica.
On écoute du Metallica sur France Inter et là vous vous dites mais c'est des gueudins, mais on n'est pas les premiers à le faire, Mishka Assayas l'a fait avant nous. Donc si Mishki l'a fait, on a le droit aussi.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Dedo.
Pour l'anecdote sur cette chanson, donc qui sonne le glas, en fait, le bruit de la cloche du glas était enregistré en frappant une baramine très fort sur une enclume dans un escalier de service. Voilà, on était à ce stade de tentative de samplage, et donc ça reste un moment marquant de ce morceau, et je voulais le dire.
Eh ben, c'est bien, ça fait avancer les choses. Alors, évidemment, là, on a parlé des musiciens, on a parlé de James, de la personnalité de James Hetfield, mais il y a aussi des gens de l'ombre qui sont intervenus sur ces différents albums. Et il y a notamment Johnny Zazula, ce disquaire underground. Est-ce que sans lui, il y aurait eu ce premier album Kill Them All, Guillaume Fleury?
Je pense que oui. Après, il a été d'une aide. Indéniable. Après, c'est vrai que John Zazula, c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, mais qui n'était pas particulièrement fait pour devenir manager d'un groupe ou pour lancer un groupe. Donc, Metallica s'est assez vite rendu compte qu'ils n'allaient pas pouvoir aller très loin avec lui. James Hetfield, d'ailleurs, l'appelait John Zero.
Ah, mais
il est toujours très délicat.
Pour quelqu'un qui investit.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime James Hetfield encore ou est-ce que vraiment sa vie n'est faite que de déserts sentimentaux et amicaux?
Non, mais le pire, c'est que James Hetfield, c'est une icône vivante.
Ah, comme quoi. En fait, faut pas chercher. Hein. Les gens, ils aiment bien quand même quand on leur parle mal. Hein.
Bah oui, ça prouve que le mec en face a confiance, probablement.
Ouais. Alors après, c'est un peu comme chez Disney. Tu kiffes les méchants. Pourquoi? Tu sais pas.
Ah, c'est ça. James Hetfield, c'est le méchant Disney de Metallica. Alors que des gens n'aiment pas le métal, ça c'est pas vraiment difficile à comprendre, mais que des amateurs de métal n'aiment pas Metallica, eh bien figurez-vous, il y en a.
Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est nul.
Non, pas terrible.
Zéro. C'est de la merde.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà.
C'est un style avec des structures et des réflexes de composition hyper prévisibles, quoi. Et donc, pour moi, un peu ennuyeux. Oh tiens, un riff avec des accords à vide. Oh tiens, la batterie s'arrête pour laisser place à un autre riff de gratte. Oh bah tiens, la batterie elle reprend avec un tempo deux fois plus rapide. Et c'est pas une question de technicité ou de quoi que ce soit, non, mais c'est plutôt un manque d'originalité et un problème de manque de renouvellement. Oh bah tiens, la batterie s'arrête encore pour un changement de riff de gratte. Oh bah tiens, la batterie revient avec le chant dessus. Et bon, ça va, on a compris, le chant arrive au bout d'une minute, couplet refrain avec des voix de crowd, solo couplet refrain, solo, la batterie s'arrête, break, fin. Voilà, c'est toujours comme ça. Et je parle même pas des voix qui n'ont le plus souvent aucune technique, mais bon, ça à la limite, c'est cohérent avec le style qui est très riffé et guitaristique, et où la technique vocale est quand même un petit peu mise à l'écart.
Un mauvais moment à passer.
On vient d'entendre Max AM, un youtubeur, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je ne connais pas forcément les artistes dont il parle, mais lui, il est très drôle dans l'assurance et la confiance qu'il a dans ses avis. Dedo, toi, vous, on va dire vous, vous qui écoutez Metallica depuis de nombreuses années, est-ce que vous validez ou non certaines de ses affirmations?
Non, pas vraiment, parce que d'autant plus manque d'originalité, sachant que le groupe a démarré en 83, il était déjà précurseur d'un mouvement qui est devenu emblématique quoi qu'il arrive, donc c'est un peu facile de dire ça. Puis moi, ça correspond un peu au fait de dire que Nirvana, c'est pas très technique, donc c'est pas bien. Au bout d'un moment, il faut savoir différencier une maestria totale et une bienveillance et surtout quelque chose d'assez fort dans la composition qui fait que ça outrepasse les qualités techniques ou non. Sachant que, effectivement, s'il y a bien un truc où je suis à peu près d'accord, c'est peut-être sur le jeu de batterie. Sachant que Lars Ulrich n'est pas considéré comme un des meilleurs batteurs au monde, hein, ça ne choquera personne si je dis ça, mais au-delà de ça, ça reste un groupe très très puissant dans les compositions, et c'est jamais par hasard qu'on atteint ce statut-là, 40 ans plus tard, rester une icône du métal.
Et puis Lars Ulrich a compensé un manque de technique, c'est par de très bonnes idées, de très bonnes trouvailles. Les plans de batterie de Master of Puppets aujourd'hui,
continuent d'être efficaces.
On les connaît, et elles ont été repompées de partout. La double pédale de One, il y en a plein des exemples. Enfin, même sur les Pure Messiah, il y a des plans de batterie qui sont inventifs, très bien trouvés, pas besoin d'être techniques. Après, Max Wamy, je regarde ses vidéos, je crois avoir vu celle-là. Je crois pas qu'il parle de Metallica, en l'occurrence. Je pense qu'il parle d'un style en général, peut-être le thrash en général, je sais plus.
Alors là, vous soulevez un lièvre et il va y avoir une conversation à la sortie de cette émission. Vous n'imaginez même pas ce que vous venez de faire. mais justement, parlons de Metallica en concert et parce que c'est aussi une expérience particulière qui n'a presque pas grand-chose à voir avec l'écoute des albums. C'est une cérémonie. Mélirette, vous les avez déjà vus sur scène ?
Non.
Jamais ?
Non.
Est-ce que vous en a parlé ? Parce que logiquement, moi, les gens que j'ai contactés m'ont dit...
On m'a dit que c'était un truc de malade, juste. Enfin, c'est, pour certains, dans le métal, c'est le rêve ultime. C'est les patrons. Donc forcément, à un moment donné, oui, moi, je rêve de ça et j'espère vraiment aller sur le Hellfest 2022, rien que pour ça.
Et les groupes,
pas rien que pour ça, parce qu'il y a plein de groupes que je veux voir aussi, mais c'est the cherry on the cake.
Les groupes que vous parrainez, que vous managez, sont fans de Metallica également ?
Ils aiment beaucoup.
À mon avis, vous avez...
Non, mais après, ils ont chacun leurs influences personnelles. Enfin, moi, là, Mundil Fari, c'est du heavy metal un peu symphonique, c'est un peu délire viking. Donc, il y a du Apocalyptica, il y a du Dream Tea, il y a un peu de tout. Il y en a un qui est... Le bassiste, particulièrement, il est dans des délires un peu avec le Japon, enfin... Mais après, Metallica, ouais, c'est un peu la base du métal, on va dire, quoi.
Oui, c'est ça. Vous les avez vus sur scène ?
Oh oui, je les ai vus, je ne sais même plus combien de fois. Plus de 10, 12, 15, je ne sais plus. Oui, bah, Metallica, après, de toute façon, tant que le poignet droit de James Hetfield fonctionnera, Metallica, ce sera très bien sur scène. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas cacher que...
Tout Metallica tient sur ce poignet droit, c'est ça ?
Oui, c'est vraiment impressionnant, parce que même les quelques défaillances que peuvent avoir les autres de temps en temps, c'est James qui les rattrape. Et j'ai eu la chance de pouvoir le voir de près, en étant vraiment près de la scène. Il y a vraiment des moments où je le vois jeter les regards, je le vois voir que l'art, c'est peut-être un peu à la peine, parce que, mine de rien, la batterie... quand ça fait 40 ans que tu fais ça, 30-40 ans, et il y a certains titres, et je le vois qu'il voit que l'autre va bouffer des mesures, et il adapte son jeu pour que ça retombe dans les clous, et je me dis lui, tant qu'il est là et qu'il tient la baraque, ça va continuer à être super sur scène, malgré tout.
Dedo.
Mais c'est vrai qu'il y a un sentiment de communion particulier, parce que au fil de sa discographie, Metallica a tellement d'hymnes que en fait, un concert d'une heure et demie, deux heures, c'est que des hits. Donc c'est assez impressionnant de voir les gens à ce point imprégnés de ce qui se passe, et c'est une sorte de karaoké géant, c'est-à-dire que ça s'arrête jamais, les gens connaissent tout par cœur du début à la fin. Et le fait qu'en plus le public soit massivement présent, ça joue dans des stades ou même dans à l'O2 à l'époque, il y a des concerts là-dessus qui ont été filmés devant 20 000 personnes. C'est rare d'avoir une telle symbiose entre le public et son groupe. Alors ça, surtout sur un groupe qui a 40 ans, qui continue d'être déjà par le grand public, mais même chez les métalleux en général, une sorte de référence ultime. Et rien que pour ça, déjà, c'est le faire Metallica en concert, c'est un événement que toute personne qui aime les guitares saturées se devrait de faire.
Et ce qui m'a frappé en préparant cette émission, c'est qu'initialement, il y avait vraiment un refus de Metallica, alors ils étaient jeunes aussi, de tous les circuits promotionnels traditionnels. En plus, c'était l'ère d'MTV, avec des clips très chiadés, des pop stars, etc. Et eux étaient vraiment dans le refus de ça, et ils incitaient même leurs fans à pirater, à passer sur des canaux de diffusion complètement différents. Et pourtant, c'est aussi ce même Metallica qui est à l'origine de la plainte contre Napster et qui a amené à une réflexion sur les droits d'auteur de la musique mondialisée. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce parcours, cette mue qui s'est opérée au sein de ce groupe.
Ah ouais, bah puis faut dire que l'appétit vient en mangeant aussi, hein. À partir du moment où on est dans une certaine rébellion parce qu'on a envie de s'affirmer justement dans un milieu musical assez compliqué et qu'on commence à cartonner derrière, on se rend compte qu'effectivement ça débloque beaucoup de royalties. Et Napster, ce combat contre Napster s'est déclenché parce qu'ils ont signé un morceau sur la BO de Mission Impossible 2. Qu'il a été massivement piraté et que derrière ça leur a pas plu de perdre potentiellement une énorme somme d'argent.
Ce qu'il faut comprendre, ce qui les a mis en rogne, c'est que la version, donc le morceau c'est I Disappear. La version qui a circulé sur internet, c'était une version démo, pas vraiment démo, mais pas finalisée, pas mixage final, pas validé par le groupe. Ça a fuité du studio, ça s'est retrouvé sur internet. Ils se sont dit, mais ils découvraient ce genre de pratique. Ils ont dit, ce qui les a vraiment énervés, c'est que ce soit leur œuvre pas validée par eux, pas finie, pas un morceau fini. Après, il y a eu une très mauvaise communication de leur part, parce qu'ils en sont arrivés à vouloir à faire interdire à 350 000 personnes fermer leur compte Napster. Ils ont attaqué des universités en disant que les universités faisaient pas assez d'efforts pour empêcher les jeunes d'aller pirater. Mais ils ont posé, finalement, Lars Ulrich a bien résumé, mais peut-être un peu trop tard après. Mais le problème, c'est qu'il a pas de problème. Il avait pas de problème avec le téléchargement. Simplement, il veut que l'artiste concerné donne son autorisation, tout simplement. C'est ça.
Là, c'est logique, en fait.
Voilà, ouais. Le consentement. Et après, comme tu le rappelais bien tout à l'heure, même sur la tournée du Black Album, ça a été un des premiers, peut-être le premier à le faire. Certains spectateurs, il y avait un espace alloué pour certains spectateurs, ils pouvaient venir avec leurs enregistreurs et faire un bootleg. Lars Ulrich est un grand collectionneur de bootleg de son propre groupe, ça lui a jamais posé de problème. Il sait très bien que les fans qui vont acheter des bootlegs, souvent ils ont 50 éditions des albums officiels. Le problème, c'était pas vraiment ça. Le problème, c'était vraiment une question de, consentement.
Et avec une carrière aussi longue, il y a forcément une sorte de milieu professionnel qui commence à se mélanger avec la vie intime, et il y a des inimitiés qui se sont développées au fur et à mesure, tant et si bien que lorsqu'un des musiciens a voulu faire un album solo, James Hetfield a dit ah non, c'est Metallica avant toute chose, et tu peux pas faire une carrière en dehors de Metallica. C'est-à-dire que il y a quand même aussi cette idée de vie de famille. Tout à l'heure on parlait d'un modèle religieux, mais quelque part on le retrouve au sein même du groupe dans la manière dont il est conçu.
Ça, c'est un problème personnel vraiment de James, c'est le contrôle sur les choses. Il a écrit des morceaux là-dessus, notamment Always in My Hand sur Saint Anger. Si tu lis les paroles, tu comprends assez vite qu'il a essayé d'en revenir, mais que c'est difficile de lutter contre sa nature. Et c'est vrai qu'il a toujours eu peur, et il l'a dit lui-même. Il s'est dit, si Jason fait un projet, Jason Newsted, le bassiste, si Jason fait un projet et qu'il marche mieux que Metallica, il va partir, il va nous laisser. Enfin, et c'est cette espèce d'insécurité, c'est vraiment un sentiment d'insécurité. Après, ça, c'est quelque chose qu'il a toujours eu depuis le début.
Je ne voulais pas qu'il aime ça plus que Metallica. Je ne voulais pas que qui que ce soit quitte Metallica. Je ne voulais pas sentir que nous n'étions pas assez, ou un truc comme ça. C'est là que j'ai compris que j'ai appris à aimer les choses en les étouffant jusqu'à la mort. Ne va nulle part, ne pars pas. Tu dois rester là.
Check it out, man. You can't fucking spell it right. Metallica. We've only been together 20 years.
C'est aussi un des seuls groupes à ma connaissance qui a accepté de faire une thérapie de groupe filmée pour un documentaire. Guillaume Fleury.
Alors c'était pas censé au départ, c'était pas censé être une thérapie de groupe le documentaire.
C'était un documentaire. Et ben, mais
sur l'album.
Ils sont devenus, et c'est devenu les rois du pétrole. C'est-à-dire que tu viens faire un documentaire sur un album et tout d'un coup ça se transforme en thérapie de groupe.
C'est ça. Par contre, il faut avoir un sacré courage ou une sacrée inconscience. Dose d'inconscience pour laisser sortir un truc pareil, parce que ils n'en sortent pas particulièrement grandi de ce documentaire. Enfin, si jamais tu les mettais sur un piédestal avant en te disant que c'était des surhommes, tu réalises vite que ce sont des hommes et que ils ont beaucoup de défauts, beaucoup de failles, et ils ont eu beaucoup de courage de les d'accepter de les afficher ainsi, parce qu'ils ont vraiment laissé le final cut au réalisateur.
Moi je pense que justement c'était bien vu de leur part, dans le sens où ce dont tu parles, le fait qu'on voit justement des hommes, des personnes avec des failles, ça les a servis parce que ça les a humanisés. Ils voulaient justement faire en sorte qu'on arrête de prendre le métalleux comme une sorte de cliché ambulant de virilisme et de machisme total, et il s'est dit c'est intéressant de montrer cette facette-là aux gens pour leur prouver justement que on a des failles, qu'on est fragile et qu'on peut justement malgré tout être des icônes. Et ça les a beaucoup plus servis qu'on pense justement.
Ouais,
après,
je pense aussi,
ouais. Après, c'est vrai que dans le milieu, beaucoup de groupes étaient là. Vous auriez jamais dû faire ça parce que maintenant, regardez, on va nous regarder bizarrement et tout. Et on s'est rendu compte que une fois de plus, ils ont été précurseurs sur quelque chose qui pouvait faire évoluer justement ce courant musical.
Ouais, après ouais, c'était surtout par rapport à l'image qu'ils envoient à leurs fans, c'est-à-dire Kirk Hammett qui dit tout finira par s'arranger en bien ou en mal, tu vois. Ça c'est chaud quand même. Tu dis t'as réfléchi avant de parler. Et James et Lars donnent des images quand même de mecs vachement pas sûrs d'eux, un peu égoïstes. Mais après, justement, ils ont dit bah oui, on était comme ça et on a essayé de régler le problème, mais il fallait quand même. Je sais que ils ont mis du temps à valider, notamment James Hetfield a mis du temps à se dire est-ce que j'ai vraiment envie que tout le monde voit ça.
Mais il y avait un souci d'honnêteté par rapport à leur public, et c'est ça qui a fait que ça a joué excessivement leur valeur, en leur faveur.
Merci beaucoup. Donc, il y a la ressortie du Black Album avec des featuring très étranges d'ailleurs.
Non, c'est pour fêter. Ils ont toujours été au fait de ça. Ils ont fait deux albums qui étaient vraiment concentrés sur des reprises. Et là, pour le coup, c'est pour fêter les 40 ans du Black Album. Et c'est vrai qu'il y a des collaborations assez originales, on va dire, parce qu'il y a Miley Cyrus dans l'histoire. Il y a Non, c'est vrai.
Le morceau avec Miley est excellent.
Ouais, ouais.
C'est la fin de cette émission. Milly Red, Dedo, Guillaume Fury. Merci. Hein. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Si vous n'aimez pas les riffs de guitare et les chanteurs qui crachent leur âme à chaque parole, cette émission a peut-être été un peu compliquée pour vous. Soyez rassurés, voici une transition astucieusement servie par Djoubacar, notre programmateur musical, veut Les Mignagnas et Laurent Garnier avec Soul.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique. Cinéma. Il va au lycée, mais il déteste ça.
C'était The Les Mignagnas et Laurent Garnier avec Soul. Mais vous allez me demander, demain, c'est quoi le programme ?
Demain, dans Blockbuster, c'est un extraterrestre venu de la planète Crypto. On l'appelle Superman.
I was wrong. You have to listen to me. Lex wants to...
Il vit à Gotham City et conduit une Batmobile. On l'appelle Batman. Lui, il n'a pas de bras, pas de jambes. On l'appelle Rayman. Yeah.
France Inter.